Bonjour à toutes et à tous. Toujours heureux d'être parmi vous. Et je dois vous faire un petit aveu tout de suite au départ. Au début de la semaine déjà, j'avais à cœur de revenir sur la Pentecôte, puisque vous n'avez pas eu de culte à Pentecôte ici même, et que chaque année c'est un peu le même scénario parce qu'il y a un culte en commun, et du coup c'est un petit peu... C'est trop juste ou trop fort. Et donc, j'avais à cœur de revenir sur la Pentecôte. Ensuite, je me suis aperçu que c'est la fête des mères. Et je dis, je vais changer d'avis. Mais en regardant mes notes sur la fête des mères, j'ai vu que l'année dernière, je vous ai fait un message ici même sur la fête des mères. Et comme vous allez vous souvenir parfaitement, bien sûr, de cela, je me suis dit que je ne vais pas recommencer aussitôt. Mais je voudrais quand même profiter de dire à toutes les mamans, comme ça a été déjà dit dans une prière, mes vœux de bénédiction pour chacune d'entre vous. Je suis bien placé pour savoir ce que c'est une mère. Ma femme était mère, a mis au monde 6 enfants, et pas seulement porté et mis au monde, mais aussi élevé, et je sais ce que ça signifie. C'est un privilège, mais en même temps, du travail, de la souffrance aussi, et une bénédiction aussi qui est attachée dans l'Écriture même à toute femme qui a eu le privilège de devenir maman. Donc, bonne fête à chacune d'entre vous. Mais je reviens donc à mon sujet sur le Saint-Esprit. Et quelquefois, on se pose la question, mais ces différentes questions que je vous affiche, à quoi sert-il? Quelle utilité? Qu'en avons-nous fait? Ou encore, quelle manifestation qu'en faut-il désirer ou quelle est sa place dans ma vie? Oui. Et je vous affiche en même temps aussi ce que je considère comme le programme pour ce matin, les différents points que j'aimerais traiter très rapidement. Voilà. Et en même temps, afficher aussi ce que, je n'ai pas ce qu'il a inventé cela, mais je l'ai entendu de la part du prédicateur charismatique Thomas Roberts, qui a souvent insisté sur cette trilogie, en quelque sorte, du Saint-Esprit. Mais je vais commencer par le début, c'est-à-dire un retour sur la première Pentecôte. Et je vais lire juste le passage rapidement de Acte 2 sur le don du Saint-Esprit. Dans Acte 2, nous lisons « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes mèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit le lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournant à Jérusalem, en entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? » et ils énumèrent toutes les origines de ces juifs qui venaient de partout. Et au verset 12, ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient les choses en ridicule. C'est l'effet du vin doux, disaient-ils. Vous ne voyez pas que ces gens sont complètement ivres. Et il faudrait revenir, bien sûr, ensuite sur les discours de Pierre qui démontrent, et on verra dans la suite, comment cela s'est passé. En tout cas, ce que nous retenons déjà, c'est que c'est une action spectaculaire du Saint-Esprit à l'initiative de Dieu. Miraculeux dans sa forme, des langues non apprises, et dans son contenu, les merveilles de Dieu. Il y avait le côté spectaculaire qui a interpellé profondément les gens et les amenèrent à se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous en arrivons là, nous sommes au point de départ d'une explication, du moins que nous ne soyons pas comme ceux qui cherchaient une réponse rationnelle ridicule. En s'esclaffant, ils sont pleins de vin doux. Une grande vérité se révèle ici que Jésus avait annoncé « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire » dans Jean 6 au verset 44. Encore de nos jours, on appelle la précieuse vérité de l'Évangile du fanatisme ou de la bigoterie, des fantasmes, de la folie, ou encore de l'excentrisme. Mais voilà que Pierre se lève, qui avait, vous souvenez, renié de connaître même le Seigneur quelques jours auparavant, ou quelques semaines maintenant plutôt, et annonce avec une autorité étonnante que vous avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Et dans les versets 23 et 34, il termine son discours en disant, « Voici donc que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Ceci, juste pour le très rapide retour en arrière sur la première Pentecôte. Mais je vais faire un tout petit retour aussi sur la prophétie. Pour comprendre une telle transformation, il faut nous rappeler que la Pentecôte était à l'origine une fête juive. Il s'agissait en fait de la deuxième des trois fêtes obligatoires pour tout juif qui était invité donc de venir à Jérusalem, au temple, à cette occasion-là. Israël fêtait la délivrance de l'esclavage de l'Égypte à la Pâque, la première fête, et 50 jours plus tard, le don de la loi au Sinaï, le Shavuot, la fête des semaines, en grec « Pentecôte », qui veut dire « cinquantième », appelé aussi en Israël la fête des semaines ou encore la fête de la moisson. Mais il nous est dit que la loi était écrite sur des tables en pierre. Elle ne pouvait pas, à elle seule, changer les cœurs. 50 jours après la résurrection de Christ, qui a délivré les siens de l'esclavage du péché et de la mort, les chrétiens se souviennent de ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Voici que les jours viennent. «
Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors je reviens rapidement sur les effets. Qu'est-ce que cela veut dire, leur fameuse question ? Personne ne pouvait rester indifférent lors de la première Pentecôte. On n'entend plus maintenant les moqueurs, mais l'exclamation de ceux et de seuls et de celles dont il est dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. Une expression d'ailleurs unique dans le Nouveau Testament pour une réaction unique. Une certitude chez tous les assistants, nous ne pouvons pas en rester là. Alors, une question, un cri vers les apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Moi, ça m'a interpellé tout personnellement, parce que j'ai passé personnellement, je me permets un petit mot de témoignage, par une situation très semblable. J'ai entendu l'Évangile dans toute ma jeunesse, en particulier de la bouche d'une assistante de paroisse de l'Église réformée où j'ai grandi en Suisse. Et je connaissais un peu l'Évangile. J'ai suivi l'école de dimanche pendant une dizaine d'années. Et la monitrice m'a même poussé moi-même ensuite à l'enseigner à des enfants sans que j'aie pris vraiment une décision personnelle. Mais à 20 ans, j'ai obtenu un diplôme d'État de gestion administrative et j'ai réussi à entrer dans les PTT comme jeune cadre. Je voyais devant moi une carrière relativement facile. Il suffisait de monter les échelons et je savais comment faire. Et tout à coup, j'ai eu comme une sorte d'illumination ou d'arrêt dans mon raisonnement. Et je me suis posé cette question, mais Dieu dans tout cela, Dieu dans ma carrière professionnelle qui semble tout dessiner. Et dans une sorte d'orgueil, je me suis dit, mais pour cela, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que c'était déjà dessiné tout seul. Bon, je ne le disais pas comme cela, mais c'était quand même un peu vrai. Mais j'ai posé tout de suite une deuxième question. Puisque Dieu existe, on me l'a dit depuis des années, il doit y avoir quelque chose de plus. Et j'ai posé un peu la question, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai commencé très sérieusement à rechercher un sens à ma vie. Et j'ai rencontré un évangéliste que mes parents allaient quelquefois écouter. Il venait une fois par mois dans notre ville. Et je suis allé carrément lui poser la question, où est le problème? Je me croyais bon chrétien, surtout en comparant à mes copains qui étaient moins motivés que moi. Et je me trouvais relativement bien. Et pire que cela, les gens disaient de moi que j'étais quelqu'un de bien et j'ai presque fini par le croire. Et alors je pose la question à cet évangéliste qui était un homme, un ouvrier, mon père l'aimait bien parce qu'il était ouvrier aussi et cet homme parlait un peu leur langage. Et j'ai attendu donc à la fin de la réunion pour le rencontrer. Et je lui ai dit que je n'étais pas heureux et que je cherchais vraiment pourquoi, alors que j'étais comme religieux en quelque sorte. Et lui, il n'est pas allé par quatre chemins. Il a ouvert la Bible, je me souviendrai toujours, que j'étais assis à côté de lui, tout près. Il m'a montré Romains 3, verset 10 et verset 23. Et il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ça m'a un peu gêné. Je me dis, il n'y a pas de juste, bon, d'accord, je ne suis peut-être pas parfait, mais quand même. Et il m'a mis un peu brutalement devant cette vérité, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de juste. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas mon appréciation de ce que je suis, et encore moins l'appréciation des gens autour de moi. C'est l'appréciation de Dieu qui compte dans ma vie. Et devant Dieu, je ne suis pas juste. Bon, il ne m'a pas dit que cela. Il m'a dit aussi comment accepter le Seigneur comme mon sauveur. Bon, ça, ce n'est pas fait tout de suite, mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai quitté la fonction publique pour répondre à un appel qui venait de la part de cet évangéliste pour faire une année diaconale. Et c'est là que j'ai pris, au mois de mai 1966, une décision pour le Seigneur que je n'ai pas eu le temps de regretter depuis. Ça, juste pour une illustration personnelle. Frère, hommes, frères, que ferons-nous? Un cri vers les apôtres de la part de ceux qui étaient donc présents à cette première Pentecôte. Et là, je vais vous citer le pasteur Hofacker. Hofacker était un pasteur allemand qui était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Ses prédications sont publiées jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il était fervent d'esprit, mais il était malade. Et il savait qu'il n'avait pas longtemps à vivre. Et il est effectivement mort en 1828, à l'âge de 30 ans. Mais ses messages ont perduré. Et lors d'une prédication, il disait, il commençait avec ce cri du cœur, c'est là l'efficacité de la parole de Dieu. C'est un marteau qui brise le roc, qui taille dans le vif, qui rend inquiet, réveille du sommeil de la mort et ne laisse plus l'homme poursuivre sa vie dans l'insouciance, mais le pousse à poser les questions « Que dois-je faire, moi le pécheur ?» Et il a ajouté lors d'une de ses prédications « Que le Seigneur réussisse à rendre inquiet nombre parmi vous. » C'est toujours un peu le désir d'un prédicateur que, par moment en tout cas, il puisse rendre inquiet ses auditeurs face à la parole de Dieu. Mais je vais encore faire un retour, cette fois-ci sur le présent. Hommes, frères, que ferons-nous ? Donc bientôt deux millénaires sont passés depuis cette première Pentecôte, mais la question demeure, que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'avons-nous fait du Saint-Esprit? Paul demande aux Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Et le grec utilise ici le présent, qui est un temps continu, contraire au parfait, par exemple. On pourrait traduire « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit » dans Éphésiens 5, 18. Et la question se pose tout pratiquement pour chacun de nous ce matin. Ou faut-il reléguer le don de l'Esprit-Saint dans ce souvenir passé de l'Église ou qui soit inaccessible de nos jours? Faut-il enlever du credo apostolique, tellement ancien, « Je crois au Saint-Esprit » Faut-il nier 2000 ans d'histoire de chrétiens qui ont porté des fruits par l'Esprit-Saint qui les habitait? Oh non! Pierre l'a dit au premier témoin de l'effusion de l'Esprit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est le verset 38 à 39 de notre chapitre. Nous faisons, nous, partie aussi de ceux qui sont au loin, comme ceux qui vont encore suivre jusqu'au retour de Christ en gloire. Il y a quatre commandements dans le Nouveau Testament qui concernent le Saint-Esprit, et ils sont tous au présent, donc dans un temps continu. Les trois premiers permettent en fait de répondre au quatrième. Le premier, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit » dans Éphésiens 4, au verset 30. Le deuxième, c'est « N'éteignez pas l'Esprit » dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19. Le troisième, c'est « Marchez par l'Esprit » dans Galates 5, au verset 16. Et le quatrième, c'est, je l'ai déjà cité, « Soyez remplis de l'Esprit » dans Éphésiens 5, 18. Et comme j'ai dit, nous faisons partie de ceux qui sont au loin. Je vais rapidement au cinquième point, le retour sur nous-mêmes. Rempli de tristesse, le professeur Jules-Marcel Nicole a écrit « Il est indéniable que trop de chrétiens ont une vie spirituelle déficiente, qui ne se rendent pas compte de ce que le Saint-Esprit peut faire en eux et qu'ils ont bien besoin de lui donner dans leur vie le rôle qu'il doit avoir. » Peut-être faites-vous le constat honnête. Non, je n'ai pas une victoire totale sur le péché. Même quelquefois, péché grossier, j'ai appris de ne m'étonner de rien. Ma vie ne reflète pas en rien l'habitation de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas cette paix de l'Esprit, cette joie dans le Seigneur, cet amour pour Christ dont la parole me parle et que je constate chez certains chrétiens. Alors, de deux choses l'une. Je cite une nouvelle fois le professeur Nicole. « Nous sommes heureux de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, tout en souhaitant pas qu'il se montre trop envahissant. Nous préférons qu'il ne vienne pas nous déranger dans telle et telle activité suspecte, ni nous inciter à mettre ceci ou cela en ordre dans notre comportement. Nous entendons nous réserver les clés de divers domaines de notre existence. Dans ces conditions, l'Esprit est en nous, mais par notre faute, nous ne sommes pas remplis de lui. » On pourrait résumer cela comme Pettigord l'a fait, non pas plus de Saint-Esprit, mais lui laisser plus de place. Voilà l'un des cas de figure, l'Esprit Saint, oui, mais sous mon contrôle. L'autre attitude, celle que j'espère, que je souhaite pour chacun de vous, c'est le oui entier et sans restriction mentale à notre Seigneur. Dans son livre « Le miracle de l'Esprit », Ralph Challis a défini les trois conditions de la plénitude de l'Esprit. 1. Une repentance instantanée avec confession et abandon de tout péché conscient. Vous entendez cela ? L'abandon, la confession et l'abandon de tout péché conscient dans notre vie. Et 2. Une obéissance instantanée à la volonté de Dieu, révélée surtout dans sa parole. Et 3. Une foi entière qui agit, qui fonce pour Dieu. Si tel est votre désir, n'hésitez pas. Les promesses sont pour vous. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dans Acte 5, nous lisons que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si une décision ferme paraît difficile, nous pouvons nous rappeler cette autre promesse. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je vais citer une dernière fois le pasteur Hofacker, qui était si pressé d'annoncer le salut, sachant, comme je dis, qu'il avait peu de temps et qu'il est effectivement mort très jeune. Il a dit, « Savez-vous ce que je désire pour vous comme fruit de ce jour de Pentecôte ? Un cœur saisi par la mort et les souffrances de Christ, qui ne sait rien d'autre que Jésus-Christ, le crucifié, un cœur qui l'aime par-dessus tout et qui peut dire, je n'ai qu'une passion, qu'un désir, lui seul, lui seul. Or, il n'y a que l'Esprit de vérité qui peut le donner. » Et un peu plus loin, il disait, « Jésus l'a promis, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, en vous, non au monde. L'unique condition pour le recevoir est donc être son disciple, non pas en apparence seulement ou en parole, mais réellement dans la vérité. Ne dites pas, c'est un discours dur. Il te suffit de soumettre ta volonté à la sienne et celui qu'il a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière s'occupera du reste. » Mais je vais conclure. Ah oui, je vous ai affiché la dernière citation. Donc, je vais conclure. Le fruit de la Pâque est le rétablissement de la communion avec Dieu par Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Et lors de la Pentecôte, Dieu a rétabli la communion entre lui et les hommes, et des hommes entre eux. Et quels en sont les fruits? Là, c'est le professeur Henri Blocher qui a dit, « À la Pentecôte, l'un des traits qui a frappé ceux qui assistaient, c'était ce petit groupe d'hommes et de femmes qui, dissemblables, vivent maintenant comme une seule et même famille, et on chuchote à leur sujet, « Voyez comme ils s'aiment. » C'est ce qui est extraordinaire. J'ai posé la question au départ, à quoi sert le Saint-Esprit? Qu'en avons-nous fait? Quelle place, quelle utilité dans notre vie chrétienne? J'espère vous avoir donné au moins une amorce de réponse. Si vous aspirez de tout votre cœur à une plénitude telle que Jésus le veut pour vous, alors je vous invite simplement à dire après moi, dans votre cœur, cette prière. Je comprends, Seigneur, que ton désir est de me remplir de ton Saint-Esprit. Toujours à nouveau. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas ou très peu vrai dans ma vie. Je veux m'humilier maintenant dans ta présence, te demander pardon de ce que l'amour du monde et ma propre justice t'empêchent de remplir mon cœur de ta présence, de ton esprit. Mais j'aimerais te dire que je désire cette bénédiction de tout mon cœur, pour te permettre à me remplir de ta paix, et de guider ma vie selon ta volonté. Me libérer de l'esclavage du péché sous toutes ses formes. J'aspire aux dons que tu as en réserve pour moi, pour être honoré dans ton Église. J'avoue ma faiblesse, mais je compte sur l'immensité de ta grâce qui englobe le vouloir et le faire selon ta promesse. Béni sois-tu, Jésus, Seigneur de l'univers et Sauveur de mon âme. Amen.